Un motard a perdu la vie dans une sortie de route ce matin. L'homme de 58 ans n'a pas survécu à cet accident survenu à Boulou-Paris sur la RT1. La réouverture du CFA pour les apprentis dans de nouveaux locaux demain après la destruction presque totale du bâtiment de Nouville dans un incendie criminel lors des émeutes au mois de mai. Des navettes supplémentaires pour le Mont d'Or Sud. Des nouveaux bateaux seront à la disposition des scolaires toujours bloqués sur cette partie de la commune ce lundi. Les sorties du week-end, l'événement phare sur la côte ouest, c'était la fête du Vert de Bancoule qui a attiré la foule sur les hauteurs de Farino. Dans la région Pacifique, la suite du déplacement du pape en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le souverain pontife appelle à la concorde, à l'harmonie entre les ethnies et à la fin des violences tribales. Il célébrait une messe à Port-Moresby. L'actualité nationale, je ne suis pas là pour faire des effets d'annonce ni pour faire de l'esbrouf, ce n'est pas mon tempérament. L'une des déclarations du nouveau Premier ministre Michel Barnier, il a consacré son premier déplacement au thème de la santé. Et puis le sport, dernier jour pour les Jeux Paralympiques 2024, ce sera le dénouement de l'Olympiade parisienne lancée en juillet dernier. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tous savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Je vous le disais en titre, le bilan de la mortalité routière s'est encore alourdi ce week-end. Un accident mortel est survenu sur la RT1 ce matin vers 9h30. Un motard a perdu la vie dans une sortie de route sur la commune de Boulou-Paris dans le secteur du pont de la Ouaméni. Son deux roues a quitté la chaussée pour une raison encore indéterminée. La victime était âgée de 58 ans. Nous en sommes à 16 décès dans des accidents de la circulation depuis le 1er janvier 2024. Dans la zone de Lafoua, un individu est activement recherché. Il s'agit du conducteur du véhicule qui a renversé un gendarme hier lors d'un contrôle routier, Gilles Ménage.
Les militaires filtraient les véhicules lorsqu'un conducteur a refusé de s'arrêter avant de percuter volontairement le gendarme et de prendre la fuite vers Fonvari par la RP5. Grièvement blessé à la jambe, le militaire a été rapidement pris en charge et évacué vers le CHT. Selon nos dernières informations, son pronostic vital n'est pas engagé, mais sa jambe est très abîmée. Le véhicule, un Chevrolet Captiva, a été retrouvé quelques heures plus tard par les gendarmes à Saraméa et une enquête judiciaire est ouverte. Au vu de la manœuvre délibérée du conducteur pour forcer le barrage, précise le procureur de la République, le parquet a ouvert une enquête pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. La brigade de recherche de Nouméa est saisie de l'enquête.
L'effet divers toujours, en bref, un feu de brousse sur une propriété privée à Pointe-Boute. Cela s'est passé aux alentours de 13h30 cet après-midi. Après 3 heures de travail, les pompiers aidés de la sécurité civile ont maîtrisé le feu. Entre 10 et 12 hectares de végétation sont tout de même partis en fumée. L'origine du départ de cet incendie pourrait être volontaire. Le propriétaire du terrain ne souhaite pour l'instant pas entamer de procédure judiciaire. On rappelle qu'en cette période de sécheresse, les feux de brousse se propagent très vite. La population est appelée à faire preuve de la plus grande prudence. Les locaux du centre de formation et d'apprentis à Nouville ont été presque entièrement détruits par les émeutiers au mois de mai dernier. Mais les apprentis du CFA qui tentent de continuer des formations professionnelles dans des conditions contraintes en raison de cette crise insurrectionnelle vont déménager de nouveau ce lundi. Les cours reprendront dans de nouvelles salles de classe, Charlotte Coulson.
Ils avaient d'abord été déplacés à la CCI. La Chambre du commerce et de l'industrie avait mis à disposition plusieurs salles de classe pour héberger les apprentis jusqu'à fin août. Passé cette date, le personnel du CFA a dû s'atteler à trouver de nouveaux locaux et c'est finalement la mairie du Mont-d'Or qui a répondu favorablement à la demande du centre de formation. On écoute les précisions d'Elisabeth Rivière, présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat.
La CMA a fait donc une demande à la ville du Mont-d'Or de pouvoir bénéficier des locaux que la ville du Mont-d'Or avait de disponibles, notamment l'école Adolphe Boutan. Ces locaux vont nous servir à remettre en place les cours dans les matières, on va dire, fondamentales, le français, les maths, toutes les matières qui ne nécessitent pas de plateau technique. Ils vont nous permettre aussi de pouvoir rassembler l'ensemble de nos équipes de formateurs, d'accompagnateurs pour les alternants, de tous nos responsables de l'alternance sur un même site après les dégâts que nous avons subis sur notre centre de formation.
Et les cours théoriques pourront donc reprendre dans l'école Adolphe Boutan au Mont-d'Or. Pour ce qui est des enseignements techniques, le CFA faisait jusqu'alors appel à certaines entreprises qui pouvaient accueillir quelques filières. Dès lundi, les docks de l'antenne de la CMA à Dimbéa seront mises à disposition des apprentis.
Alors on a aussi une antenne à Zac Panda avec tout un panel immobilier de docks que l'on loue aux entreprises. Certaines entreprises, de par la crise, ont souhaité arrêter leur bail et nous avons conservé du coup 3 docks pour pouvoir remonter la partie technique des ateliers électricité, clim et aménagement du bâtiment parce que nous avions besoin d'avoir des espaces suffisamment grands et à l'écart aussi de Yahweh parce que ces ateliers font un peu plus de bruit. C'est pour ça qu'ils ont été redéployés sur notre antenne de Pendant.
Des solutions temporaires, mais qui permettent d'assurer une continuité dans la formation des 250 apprentis du CFA.
Depuis plusieurs semaines, certains barrages de voisins vigilants qui sécurisaient l'entrée de nombreux quartiers de Nouméa sont retirés progressivement. À Sainte-Marie, la passerelle piétonne qui relie la baie de Magenta à la presqu'île de Wemo avait été fermée par des barricades au plus fort des émeutes. Depuis la fin du mois d'août, elle a été réouverte en semaine de 6h à 18h. Et ce matin, quelques riverains ont décidé de lever également le barrage pour ce dimanche. Les avis restent contrastés sur ce moyen de sécurité qui est aussi une contrainte pour les promeneurs et les habitants du quartier.
Bah avec les enfants, on habite à Wemo, oui, c'est bien que ça soit ouvert pour l'heure d'ouverture pour les écoles. Et éventuellement, bah voilà, le samedi, le dimanche, quand on a besoin d'aller au parc. Bah, surtout le week-end, ouais. Après que le soir, ce soit fermé, c'est pas un souci, mais c'est vrai qu'avec les enfants, moi je suis en vélo, ça m'oblige à passer par la route, c'est du coup dangereux.
C'est un plaisir de pouvoir traverser, profiter de la mangrove, du coucher de soleil.
C'est vrai que pour les balades à vélo, etc., de Wemo à venir là, c'est vrai que c'est très bien. Mais oui, ça fait un petit stress de savoir. Pour les prochains là, événements, on ne sait pas ce qui peut arriver fin septembre.
On est ravis parce que on peut enfin se promener avec notre petit qui fait du vélo, courir, traverser directement de Wemo jusqu'à l'araignée pour pouvoir jouer. Mais en même temps, on est partagé parce qu'on ne sait pas du tout ce que les événements vont nous dire dans quelques jours encore. Un peu de soucis aussi.
Un reportage signé Charlotte Coulson. Le barrage de la passerelle avait été mis en place au mois de mai dernier pour limiter l'accès à la presqu'île de Wemo. Une passerelle qui est aussi un raccourci habituellement pour se rendre à pied de Wemo à Magenta Sainte-Marie. Par ailleurs, elle permet aux Nouméens d'accéder au sentier de la mangrove de la ville de Nouméa. Un nouveau dispositif pour les élèves du sud du Mont-d'Or. Dès demain, 4 navettes supplémentaires navigueront entre Boulary et le Vallon d'Or. Ces bateaux de 12 places chacun seront exclusivement réservés aux élèves ainsi qu'au personnel enseignant du Mont-d'Or. Une file spécifique leur sera dédiée afin de limiter l'attente au débarcadère et au port. Les navettes partiront à 6h30 de Boulary pour un retour du Vallon d'Or prévu à 16h30. Un dispositif mis en place par la ville du Mont-d'Or et la Province Sud en collaboration avec le gouvernement et le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
RRB 17h53.
L'heure de voir de quoi la semaine qui vient sera faite avec d'abord plusieurs rendez-vous à noter dans l'actualité institutionnelle, Gilles Ménage.
Dès demain, le Congrès sera réuni boulevard Vauban pour procéder à l'installation du comité interinstitutionnel chargé de négocier avec l'État les financements nécessaires à un plan quinquennal de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Ce comité est composé du président du gouvernement, de la présidente du Congrès, des 3 présidents de province, du président du Sénat coutumier, de celui du CESE, des parlementaires, des associations de maires et des chefs de groupes politiques au Congrès. Jeudi, c'est l'Assemblée de la province sud, cette fois, qui sera réunie en séance plénière, avec à l'ordre du jour notamment la décision modificative numéro 2 du budget 2024 de la collectivité, mais aussi un projet de délibération qui concerne la fermeture du collège de Rivière-Salée, ou encore la gestion des déchets issus des chantiers de démolition, déconstruction et déblaiement des bâtiments détruits par les émeutiers depuis le 13 mai. Notez également que le conseil municipal de Conné se réunit mardi pour un point sur le budget et la trésorerie de la commune. Au Mont-d'Or, le conseil municipal se réunit vendredi à 10h avec également la décision modificative numéro 2 du budget 2024.
Dans l'actualité, on notera également l'ouverture au public mercredi du Théâtre de Lille dans le cadre des Journées du patrimoine. Et le week-end prochain, la 9e édition du salon Nature, Maison et Déco qui se déroule chaque année au Parc Fayard. Il s'ouvrira exceptionnellement pour 2 jours au Parc Brunelet à Nouméa. Vos rendez-vous d'antenne, c'est Sonia Baquès qui sera notre invitée du matin demain à 7h30. De retour de Paris où elle a multiplié les contacts et les interventions pour alerter sur la situation de la Nouvelle-Calédonie, la présidente de la province sud a également été reçue par le chef de l'État à l'Élysée. Sonia Baquès, invitée du matin sur Radio Rythme Bleu, ce sera donc demain à 7h30. Et puis, à la fin de ce journal, ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. C'est Christopher Gigès, le membre du gouvernement qui était l'invité d'Elisabeth Noir vendredi midi. Une émission à retrouver également en podcast sur notre site internet www.rrb.nc.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu à Boulou Paris, Saraméa, La Foy, Moindou, Farino, c'est le sang.
C'était le rendez-vous du jour sur la côte ouest, le célèbre marché de mamie à Farino et la fête du ver de Bancoule. Le ver de Bancoule sous toutes ses formes, cru, cuit ou assaisonné, ce sont ceux qui l'ont goûté qui en parlent le mieux.
J'en ai dégusté un, mais cuit. Et bon, écoutez, c'est bien, c'est bon, et c'est sympa. C'est une découverte, hein, c'est une première.
C'est quelle recette là? Parce qu'on sait qu'il y a pastis et ail.
Ouais, ail. On avait pris ail.
C'est très bon. C'est mou, je sais pas comment s'expliquer. Ouais, c'est gluant, mais ça se mange.
C'est meilleur cuit que cru. celui-là, c'est celui au beurre maître d'hôtel. Nous, on habite à Focola, en bas de Farino. Du coup, on vient tous les ans. Et là, c'est la première fois que ma petite, qui vient, elle est toute jeune, elle a 16 mois, et du coup, j'ai voulu lui montrer les verres cette année, et là, elle va goûter. Alors, elle pourra pas vous dire si elle aime, mais on dirait qu'elle en veut, en tout cas.
Ça a un goût un peu boisé, c'est bon.
Vous avez goûté quelle recette?
Flambé au pastis, avec un camari marseillais, obligé.
C'était excellent, très juteux. Ils sont gros cette année, en plus.
J'ai goûté cru, au début, c'était vraiment, psychologiquement, ça avait bizarre, mais en fait, c'est un petit goût d'amande. Et cuit, c'est vraiment différent. Effectivement, on sent la coco, c'est bon. Ouais, c'est très bon.
Le cru, j'ai eu un peu de mal, quand même. C'est assez juteux et tout ça. Mais bon, au bout d'un moment, ça va, on s'habitue un peu. Et là, le cuit, franchement, ils ont fait une petite marinade sympa aux herbes. Non, franchement, ça va. Ça va. C'est peut-être pour ça qu'il y a le mot cool dans Bancoule.
Un reportage signé Léana Colombo. Une fête du ver de Bancoule qui ne s'est pas déroulée dans les conditions habituelles en raison des événements. Pas de concours de fouillage ou de bouffage, mais de nombreuses animations et présentations de produits locaux qui ont fait le succès de cette journée. C'est ce que nous a dit Ghislaine Arly, la responsable du marché de Mamie, était en direct dans notre édition de midi.
Nous sommes très satisfaits parce que vraiment les gens ont participé. Il y a eu beaucoup de monde. Les gens ont joué le jeu. Nous avons eu une fouille de verre pour déguster les verres crus. Tout le monde a fait le plein et en plus il y avait énormément de verres, donc il y en a eu pour tout le monde, il n'y a pas eu personne déçu, tout le monde était plutôt heureux, on a pu goûter de deux façons cuisinées, donc vraiment c'est une belle journée pour nous et surtout ben, les gens ont bien vendu, ce qui est important aussi pour nous, hein. Tous ceux à qui je parle me disent on est heureux d'être là, on est heureux de vous retrouver, de revenir sur Farino, de cette petite ambiance conviviale et chaleureuse, les gens ont vraiment besoin de ça, donc moi je suis très heureux que ce soit bien passé et surtout que les gens soient heureux.
Le marché de Farino qui a vu apparaître une nouveauté cette année, les achats au ver de Bancoule à déguster sans modération. Rien n'arrête les poissons. Un jeu de mots bien trouvé qui marque l'ouverture d'une nouvelle saison à l'aquarium des Lagons. Depuis le 2 septembre, les visiteurs peuvent en apprendre plus sur les poissons à travers différentes animations. Charlotte Coulson.
Le vrai monde de Nemo, enfin révélé. C'est la thématique de l'animation qui réunissait les petits et leurs familles ce matin. Le but, en apprendre plus sur les spécificités du poisson clown et de manière divertissante. Gilles est bénévole à l'aquarium depuis 8 ans. Il anime pour la première fois cette activité. Sur place, de très jeunes enfants venaient redécouvrir le film Le Monde de Nemo et tenter de répondre aux questions de l'expert en poisson clown.
Alors en fait, on parle du monde de Nemo, mais c'est surtout le papa qu'on va voir.
L'animation part sur des séquences de films Le Monde de Nemo et le but est de montrer le vrai du faux, montrer ce qui est romancé dans le dessin animé et ce qu'il en est réellement dans la vie naturelle. Un petit exemple, Marin, qui est le papa de Nemo, va parcourir des milliers de kilomètres, alors que dans la réalité, le poisson clown ne s'échappe jamais à quelques centimètres de son anémone.
Pourquoi est-ce qu'on appelle le poisson clown le poisson clown? Alors, dans le dessin animé, il donne une réponse.
En fait, il a un papa, mais au début, il y a un maracuda qui vient manger tous les bébés poissons clowns, mais après, il en reste un.
Une animation trimestrielle à retrouver tous les jours à l'Aquarium des Lagons de 15h à 17h et également de 10h à 10h le week-end.
Merci beaucoup Charlotte Coulson. Il est 17h passé de 59 minutes. On va tourner une page de publicité dans ce journal avant de voir l'actualité nationale et dans le monde et le point sur la visite du pape chez les papous. A tout de suite.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et la suite du journal avec vous, Michael Juneski.
L'actualité dans le Pacifique, le pape François poursuit son voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée où il a rencontré le Premier ministre papou James Marape à Port Moresby avant de célébrer la messe dans le stade de la capitale. Le point avec notre correspondant régional Jean-Pierre Zajac.
Entre 35 000 et 40 000 personnes ont assisté à cette messe. Certaines étaient venues en autocar ou par bateau. Des quatre coins de la Grande Terre, et en particulier des hauts plateaux, d'autres ont marché pendant des semaines pour atteindre Port Moresby. Nombre de ces fidèles portaient leurs atours traditionnels, confirmant ainsi les propos tenus hier par le pape, qui avait noté la richesse culturelle extraordinaire du pays. Mais il avait aussi profité de l'occasion pour souhaiter que cesse la violence tribale et que ceux qui en étaient les auteurs s'engagent résolument sur la voie qui mène à une coopération fructueuse. Raison pour laquelle sa messe du stade Sir John Guise avait pour thème justice, proximité, compassion et tendresse. En courant d'après-midi, il a passé quelques heures à Vanimo, où il a notamment rencontré les missionnaires d'une école humaniste. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
L'actualité nationale, le premier déplacement de Michel Barnier sur le thème de la santé aux côtés des équipes du SAMU de Paris. Le nouveau Premier ministre a visité notamment la salle de régulation de l'hôpital Necker. Il a participé à une table ronde avec le personnel. On écoute Michel Barnier, le Premier ministre.
Bon, je ne suis pas là pour ni faire des effets d'annonce, ni pour faire de l'esbrouf. D'ailleurs, je n'en ferai pas tout au long de mon mandat de Premier ministre. Ce n'est pas mon tempérament. Donc je continuerai à essayer de comprendre pour bien agir et sa santé sera une priorité du gouvernement. Et je voudrais que des progrès rapides soient visibles dans les campagnes, dans l'offre de soins, dans les maisons de santé et les services médicaux, en même temps qu'on continuera à s'occuper de mieux faire fonctionner l'hôpital avec les personnels.
Voilà, et puis notez que des manifestations se déroulaient par ailleurs en métropole au même moment, cette fois pour dénoncer la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre, ce qui représenterait un nouveau coup de force démocratique selon l'opposition. Les manifestations n'ont toutefois rassemblé que quelques 110 000 personnes dans tout l'Hexagone. Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, a assuré de son côté ne pas vouloir participer au désordre et au blocage en renversant d'emblée le prochain gouvernement avec une motion de censure, tout en affirmant dans le même temps surveiller de près le nouveau Premier ministre qui doit poursuivre ses consultations. On écoute Jordan Bardella.
Rien ne peut se faire sans le Rassemblement national. Et j'attends du Premier ministre et du futur gouvernement qu'ils se mettent au travail. Des mesures concrètes pour un sursaut sécuritaire et pénal à l'heure où nous avons eu un été d'une violence importante. Je vous rappelle ce drame où un gendarme a été renversé, laissé pour mort par un multirécidiviste qui n'aurait pas dû être sur le sol de la République française. Et évidemment sur la question de l'immigration. Donc nous serons extrêmement exigeant. Le Rassemblement national sera une opposition constructive et il entend évidemment préparer l'alternance parce qu'un espoir s'est levé et je souhaite que les Français puissent continuer d'aspirer au changement.
Jordan Bardella, le président du Rassemblement national qui était l'invité du 20h de TF1. Notez que Michel Barnier recevra ce soir encore les représentants du parti Horizon, dont Édouard Philippe. Et puis, ce sondage IFOP réalisé pour le journal du dimanche, les Français sont plutôt satisfaits de l'arrivée de Michel Barnier à Matignon selon cette étude réalisée pour le JDD. Geoffrey Lejeune est le directeur de la rédaction du journal du dimanche.
Trois informations assez importantes dans le sondage. 52% des Français qui sont satisfaits de sa nomination. Ce qui est intéressant, c'est la comparaison avec ses prédécesseurs. D'abord, il y avait Elisabeth Borne qui était très en dessous et Gabriel Attal qu'on a décrit, vous savez, un peu comme porté par une forme d'aura et de renouveau qui en fait n'était qu'à 53%. Donc il est juste derrière dans un contexte politique qui est beaucoup plus compliqué, où il n'y a pas de majorité, où il intervient après 57 jours de carence au poste de Premier ministre. Et en fait, sa popularité n'est pas mauvaise. mauvaise du tout. En tout cas, la satisfaction des Français est juste un tout petit peu inférieure d'un point donc à celle de Gabriel Attal. Mais il y a aussi deux autres informations. La première, c'est que les Français pensent qu'il pourra être renversé assez facilement et de manière assez majoritaire. Ça prouve que la tâche qui l'attend va être très difficile. Et ensuite, il y a les traits d'image de Michel Barnier. Et pour le coup, ils sont assez positifs sur le caractère, la personnalité, ce qu'il a montré là en quelques jours. Le profil est plutôt apprécié par les Français.
Geoffrey Lejeune, le directeur de la rédaction du journal du dimanche. Et dans les colonnes du JDD, le Premier ministre a par ailleurs accordé un entretien où il a répété à plusieurs reprises être d'en bas, répondant ainsi à la polémique née de sa phrase sur les gens d'en bas prononcée lors de sa passation de pouvoir avec Gabriel Attal. Il met en avant, je cite, le militantisme associatif de sa mère ainsi que la condition de petit entrepreneur de son père. Moi, je viens d'en bas, il n'y a pas d'ambiguïté, assure Michel Barnier. Notez que l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos cette semaine sera Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Une émission que vous retrouverez sur l'antenne d'RRB demain soir, juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. Il est 18h passé de 6 minutes. Une dernière page de pub avant de voir tout le sport.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite du journal et tout le sport, Mickaël Juneski.
Et à la une du sport, les Jeux de Paris 2024, on est dans la dernière ligne droite.
Les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB, avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Les Jeux Paralympiques s'achèvent demain matin. Parmi les dernières sensations aujourd'hui, l'équipe de France de cécifoot qui a dominé l'équipe d'Argentine en finale aux tirs au but, apportant à la délégation tricolore sa 19e médaille d'or sur 74 podiums. Les Bleus sont 8e du classement, alors que les Français avaient déjà terminé dans le top 5 des Jeux Olympiques. Il reste encore des chances de podium ce soir. En attendant, pour David Lapartien, le président du Comité National Olympique et Sportif Français, cette Olympiade est déjà une réussite.
Je crois qu'ils sont vraiment réussis. Je pense qu'il y a aussi le pays qui a été embarqué par ces Jeux. Les audiences sont extraordinaires quand on regarde tout ça. On a des matchs, des compétitions, des courses absolument passionnantes. Il y a un supplément aussi d'humanité quelque part dans ces Jeux. Et je trouve que c'est... Voilà, ils sont formidables et les Jeux Olympiques et Paralympiques sont vraiment totalement complémentaires et vraiment bravo aux athlètes.
Également présente dans la capitale pour le dénouement de ces Jeux de Paris, la maire de Los Angeles, Karen Bass, qui souhaite s'inspirer de ce qu'elle a vu dans la capitale pour les Jeux de 2028.
I will be leaving Paris on Sunday.
Je vais quitter Paris ce dimanche avec une incroyable inspiration. Ces Jeux ont été véritablement magnifiques. J'ai aimé la façon dont la ville tout entière a été impliquée et nous voulons imiter cela à Los Angeles dans 4 ans. J'ai déjà beaucoup d'idées pour Los Angeles. Je dois le dire, nous avons un logo merveilleux, accueillant. Nous devons être ouverts, partager toutes les leçons apprises ici. Et je le répète, la leçon la plus importante apprise ici, c'est comment impliquer toute la ville, que ce soit dans un lieu où il y a des épreuves ou là où il n'y en a pas.
La cérémonie de clôture demain matin sera animée notamment par Jean-Michel Jarre ou Martin Solveig à Paris avec un nouveau show musical électronique. 24 DJ vont mixer pour cette soirée. En attendant, parmi les épreuves à suivre, le marathon T54 qui est en cours. Je vous rappelle que 3 Calédoniens étaient en lice dans ces Jeux Paralympiques. Pierre Ferbang qui a notamment terminé 4e du 800 mètres, 5e du 100 mètres et 6e du 400 mètres à l'âge de 53 ans. Et puis la relève est assurée. Vittorio Cavacava a fini 7e du concours du lancer de poids F57 et du concours de javelot F57. Et Félicien Siapo a terminé lui à la 4e place du 100 mètres T44 avec un record d'Europe à la clé. Des performances plus qu'encourageantes devant plus de 65 000 personnes au Stade de France. Et déjà dans la perspective des Jeux de Los Angeles 2028.
C'était les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Le sport, c'est aussi la reprise du championnat de France de rugby. Les clubs du top 14 sont repartis à l'assaut d'une nouvelle saison. Mais demain, on aura droit à un choc entre le Stade Rochelais et le RC Toulon à partir de 2h du matin. Puis, à 6h, le champion de France en titre, le Stade Toulousain, ira découvrir le terrain du club des Bretons de Vannes, promu cette année. On écoute le demi d'ouverture de Toulouse, Romain Tamac.
Derrière les Vantés, je pense qu'ils ont un public qui est plus... qui est plus à démontrer, qui est toujours là derrière son équipe. Donc on a hâte aussi de découvrir le public breton et évidemment en parlant de l'équipe de Vannes, qui est une équipe qui mérite largement sa place en top 14, qui travaille depuis des années dans la continuité avec son staff, son effectif qui s'étoffe d'année en année. Et je pense qu'on va s'attendre évidemment à un gros combat, une équipe qui joue très bien au rugby et qui a très peu finalement de points faibles. Donc voilà, on essaie de préparer au mieux ce match-là.
Vannes-Toulouse à suivre à partir de 6h05 ce lundi. Du rugby aussi dans l'hémisphère sud et les All Blacks qui ont été une nouvelle fois battus dans le Championship. Les Néo-Zélandais se sont inclinés pour la deuxième fois d'affilée sur le terrain des Springboks sud-africains 18-12. C'est la troisième défaite de la Nouvelle-Zélande tenante du titre dans cette édition du tournoi des nations de l'hémisphère sud. De son côté, l'Argentine a étrié l'Australie 67-27. L'actualité du tennis, Arina Sabalenka a remporté le titre à l'US Open aujourd'hui en disposant de l'américaine Jessica Pegula 7-5-7-5. Chez les messieurs, l'Italien Yannick Sinner sera opposé demain à l'Américain Taylor Fritz. Du cyclisme, plus qu'une étape à courir sur le Tour d'Espagne. Le sacre en vue pour Primoz Roglic. Le Slovène est en tête du classement général avec 2 minutes 2 secondes d'avance sur l'Australien Ben O'Connor. Et puis, les sports en mécanique en MotoGP, le Grand Prix de Saint-Marin sera à suivre ce soir. Départ à 23h, heure de Nouméa. Et en rallye, le Belge Thierry Neuville est leader de l'épreuve grecque du championnat du monde WRC. Il devance Dani Sordo, son coéquipier Hyundai, et le français Sébastien Augier, troisième. Encore trois spéciales à suivre ce soir.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Allez fou, c'est le 102.5.
Le sport en Calédonie du football avec la sélection qui a lancé son cycle de préparation aux éliminatoires à la Coupe du Monde. Des matchs planifiés face à des clubs au stade Nouma Dele. Les Calédoniens se sont imposés hier face à la sélection de Tigasport 2-1. L'important était de retrouver les terrains et aussi de permettre aux joueurs de se confronter même à des formations de clubs. Johan Sidaner, le sélectionneur de la Nouvelle-Calédonie.
Dans un premier temps, ce qu'on voulait, c'était se rapprocher tranquillement de la date de compétition avec pour premier objectif de donner du temps de jeu à un maximum de joueurs. La mission c'était vraiment de courir, de jouer, de se rassembler, et le match qu'on a été capable de faire nous donne satisfaction. Sans parler du score qui était anecdotique, on a plutôt mis en place ce qu'on voulait, c'est-à-dire avoir le ballon la plupart du temps et essayer de mettre à mal l'adversaire. Mais on est tombé sur une très bonne opposition de Tiga qui nous a permis d'avoir du temps de jeu et une belle opposition.
Est-ce que des sélectionnés peuvent se sentir menacés si face à vous, vous voyez des choses intéressantes ?
Exactement, c'est le message qu'on leur a fait passer. La sélection n'est pas un dû et effectivement, il y a de la concurrence et dans tous les clubs, ils font partie eux-mêmes de clubs. Et là, c'est l'occasion aussi de voir des joueurs et l'évolution de tous les joueurs de Super League. On est très satisfait là aussi parce que ce soit dans l'effectif de Tiga ou dans celui de la sélection, on a vu 40 bons joueurs cet après-midi.
Le week-end prochain, l'équipe de Nouvelle-Calédonie Denis retrouvera Magenta, toujours au stade Nouma Dele à huis clos. On rappelle que les Kagous retrouveront la Papouasie-Nouvelle-Guinée le 10 octobre prochain pour lancer leur campagne de qualification au Mondial. Et puis dès demain, ce sont les féminines de la sélection des moins de 16 ans qui lanceront leur tournoi océanien à Fidji, avec une première confrontation contre la Nouvelle-Zélande dès 11h avant les Salomon jeudi et Tahiti dimanche prochain. Du cyclisme en métropole, après sa 8e place en vitesse élite, Hervé Salin participait aux épreuves du Keirin dans le cadre de la Coupe de France. Ça se passait à Lyon. Le Calédonien a remporté la première série et s'est qualifié au deuxième tour pour la finale. Finale qu'il a remportée après une belle lutte face à un autre coureur de la sélection ultramarine, Mathias Silvaniz. Hervé Salin qui continue de réaliser de très belles performances dans le haut niveau en métropole. Enfin, de la voile sur le territoire avec la suite du challenge J70 du CNC. C'est l'équipage de Vincent skippé par Vincent Trinquet qui l'a emporté aujourd'hui devant l'équipage des Quicheurs de Tampico, suivi de l'équipage Sponsor Wanted de Philippe Minier. 18h passé de 14 minutes, la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover,
aménagée.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous Maxime, bonsoir.
Bonsoir à tous, et bien pas de vigilance particulière pour cette nuit. Tout d'abord, le ciel sera bien dégagé sur la façade ouest. Ailleurs, les nuages seront plus présents et de rares ondées circuleront sur la façade est et au Loyauté. Le vent d'est-sud-est restera compris entre 15 et 20 nœuds, toujours un peu plus fort sur l'extrême nord-est. Sur l'ouest, il mollira autour des 10 nœuds ce soir et les températures minimales remonteront légèrement entre 17 et 20 degrés. Elles descendront localement autour des 13 degrés dans l'intérieur. Demain matin, peu de changements avec une côte ouest bien ensoleillée et un peu plus de nuages sur l'est et les Loyautés. Et de petites averses qui seront attendues également sur le sud-est. Le flux d'est-sud-est se maintiendra de 15 à 20 nœuds. Sur la façade ouest, il s'établira entre 10 et 15 nœuds de sud-sud-est et localement proche des 10 nœuds au début de la journée.